Amour.
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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast. On se retrouve pour la seconde partie de l'épisode avec Abigail. Si vous ne l'avez pas écouté, la première partie est sortie la semaine dernière. Je vous laisse aller écouter le début pour comprendre qui est Abigail et de quel amour elle continue à nous parler aujourd'hui. Alors je vous souhaite une belle écoute à tous. À très bientôt.
La psychiatre en chef a enlevé sa blouse lors de nos entretiens, justement parce qu'elle savait le traumatisme que ça représentait pour moi. Et le fait d'avoir en face de moi une personne qui retire sa blouse et qui fait « Ok, maintenant, on va véritablement parler. » Et même moi, je trouve que ça nous remet sur un pied d'égalité, tu vois. C'est plus la patiente en face d'une psychiatre, c'est juste deux personnes qui discutent. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Parce que je sais que je suis malade, je sais que j'ai besoin d'être accompagnée, de prendre des médicaments, mais je ne veux surtout pas qu'on me le fasse sentir. C'est-à-dire, ok pour aller voir le psy, mais je ne veux pas me sentir comme une malade et comme une patiente. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce que donc, l'une des caractéristiques du trouble borderline, c'est que bah, je me sens très différente et très dysfonctionnelle, et on va pas se mentir, le fait d'aller tous les jours en hôpital psychiatrique, ça arrange pas le truc, tu vois. Au contraire, ça creuse de « mais je comprends pas, genre tout le monde arrive à dealer avec ses émotions sans aller à l'hôpital psychiatrique, pourquoi moi je dois y aller ?» Moi, c'était un peu le syndrome de l'enfant qui est puni. Tu sais, genre, putain, je suis punie, moi je dois faire ça, les autres ils ont pas à faire ça, pourquoi ? Donc voilà, et puis, et finalement ça c'est un trait, une caractéristique qui est commun à tous les professionnels de santé qui m'encadrent aujourd'hui, c'est mon psychiatre, son cabinet, ouais voilà, c'est je suis sur un fauteuil, je suis là, je raconte ma vie et tout, mais il me fait pas sentir que, enfin voilà, il a compris que s'il voulait véritablement que je me livre, etc., il fallait que la conversation soit fluide, et il fallait pas trop me ramener à tout ça, quoi. Donc ça donne vraiment...
Mais ça devrait être tout le temps comme ça, en fait. C'est ça, le souci. C'est que il y a toujours eu à l'hôpital, dans tout le côté... les soignants sont au-dessus, et puis le patient, lui, il est là pour se faire soigner, quoi. Donc toi, t'as besoin d'aide. Nous, on est là, on est... Ouais, un côté supériorité. Alors que on est d'égal à égal. Moi, il m'est arrivé en psychiatrie de dire moi j'ai voulu essayer les traitements aussi. Bon, je l'ai essayé pendant une semaine. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi à ce moment-là. Mais voilà, j'ai fait une thérapie. Et des fois, quand tu parles de thérapie, mais vous aussi, vous avez fait une thérapie. Cette supériorité qu'ont les soignants avec les patients, alors que si on se met à la même hauteur, à égalité, moi perso, ça m'a créé des. Enfin, j'ai gardé des liens avec certains patients, avec certaines patientes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on était exactement pareil. Je pense à Laurence, une patiente aide-soignante qui m'a touchée par son histoire. Et elle est venue une fois un soir pour qu'on discute. Et je lui ai dit, j'étais dans ma période où je créais mon podcast et où je disais à tout le monde, est-ce que vous vous aimez? Et je disais, est-ce que tu t'aimes, Laurence? Et parce qu'on a commencé à se tutoyer, en fait. Et elle me dit, non, je sais pas trop et tout. Je lui dis, tu te regardes dans le miroir, des fois? Elle me dit, non, mais quand je vais rentrer dans ma chambre, je vais le faire, c'est une trop bonne idée et tout. Et puis, on a tissé des liens. Donc, moi, j'étais infirmière intérimaire là-bas. Et j'y retournais et à chaque fois, on discutait. Et je me disais, mais en fait, ça pourrait tellement être... Bon, elle avait 45 ans, j'en ai 34, mais ça pouvait tellement être une amie, en fait. Et en fait, ce côté professionnel de santé où il faut pas... c'est souvent qu'on dit il faut pas du tout parler de ton personnel. Je trouve que si on cassait un peu ces barrières, bah justement de la tenue aussi, parce que oui, enfin la blouse blanche en psychiatrie, en réellement, elle nous protège de quoi? Enfin, je veux dire, t'enfiles quelque chose, mais je trouve que ça crée vraiment une grosse barrière dans le truc, quoi. Enfin. À part pour les patients qui sont en gérontopsie où tu sais que bah il y a un risque, enfin voilà, pour les selles, etc. En vrai, ça crée plus une barrière de dire, je suis là pour, oui, je suis soignant, mais enfin si on cassait vraiment cette barrière là, même de l'entretien, voilà, ça pour les hospitalisations. On discutait avant d'enregistrer de ce que vous racontiez, parce que on va parler des papiers que tu remplis et puis de cette entrée en hospitalisation. Moi, je trouve qu'on vous pose, enfin, c'est pas qu'on vous pose trop de questions, c'est que vous rabâchez, en vrai, 50 fois votre histoire. Et vous la rabâchez tous les jours. Comment tu veux te sortir de ça si tu rabâches tous les jours un nouveau soignant? Pour ton entrée, bah, t'arrives, t'es vu par un psychiatre. Nous, c'est un médecin généraliste pour les autres petits traitements. Plus tu le racontes à l'infirmier. Si ensuite tu te fais des collègues entre guillemets dans l'hospitalisation, bah tu la re-racontes. Tu rentres déjà dans un établissement, t'as tout le cadre à prendre, t'as l'alimentation, est-ce que tu manges en chambre, etc. On te demande si t'es au niveau alimentaire, qu'est-ce que tu manges. On te dit vous pouvez poser vos affaires là. On vous récupère tout ce qui est verre. On vous récupère tout ce qui est, c'est beaucoup de choses alors que t'es là, c'est le premier jour en plus. Si t'es là pour une dépression. Pour tout, c'est quelque chose où déjà t'as une charge émotionnelle qui est assez forte, on te sort de ton cadre et en plus on t'impose de raconter ton parcours. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, ces premiers jours, ces premiers moments d'hospitalisation. T'as eu d'autres hospitalisations qui se sont plutôt bien passées? Quand même.
Bah oui, du coup, l'hôpital de jour, moi, c'est ça qui m'a réconciliée avec le monde psychiatrique, avec le fait qu'il y avait des blouses blanches qui étaient véritablement bienveillantes, à l'écoute, qui connaissaient aussi le trouble borderline très très bien. Donc, le fait de bien connaître le trouble, on sent que quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose, elles arrivent à mettre des mots sur nos mots, justement. Donc voilà, mais pour revenir à ça, c'est vrai que durant ma première hospitalisation, comme tu l'as très bien dit, c'est épuisant de tout le temps rabâcher la même histoire. Et c'est surtout, moi je sais qu'en fait, à force, j'étais tellement épuisée que vraiment ça m'a... Pourtant je suis pas... j'ai pas un tempérament qui est colérique ni quoi que ce soit, mais quand on me pousse à bout, bah je craque. Et en fait le fait de changer de structure et de ne jamais parler à la même personne à chaque entretien, moi ça m'a rendue vache, quoi. Et en fait, à un moment on m'a changé de structure, donc là il a fallu encore re-rabâcher. Et je sais plus à la combientième fois, mais au bout d'un moment, j'ai craqué. Et vraiment, j'ai dit, mais cette histoire, je l'ai racontée à 1 milliard de personnes différentes. Je raconte en plus de ça toujours la même chose, hein, parce que mon histoire, elle n'a pas changé. Hein.
Au final, tu t'es fait une histoire tu la racontes en plus de façon monotone. Enfin, il n'y a plus de d'intonation de voix, en fait. Tu la racontes et puis les gens peuvent croire du coup carrément que t'en as plus rien à faire de ton histoire, mais
Du coup, bah, tu l'as accepté presque.
Non, mais c'est, ouais, c'est une disquette que je raconte à chaque fois exactement la même chose, limite du mot pour mot. Et vraiment, je me souviens, la pauvre, elle s'est un peu tout pris dans la figure, mais je lui ai dit, mais bordel, vous avez pas un dossier où il y a tout écrit et juste vous transmettez le dossier d'une personne à l'autre et puis comme ça vous me laissez tranquille, parce que moi c'est véritablement de l'énergie que je n'ai pas. Je n'ai pas cette énergie là de tout le temps répéter. En plus de ça, c'est un truc qui était quand même assez traumatisant. J'ai pas forcément tout le temps envie de revenir sur pourquoi je suis arrivée aux urgences psychiatriques, tu vois. C'est bon, j'ai dit une fois, deux fois, c'est hyper pesant, c'est hyper difficile. En plus, là, avec le recul, j'ai les mots pour pouvoir en parler. Mais il y a 2 ans, j'étais incapable de verbaliser ce que j'étais en train de vivre. C'est pour ça, là, je profite d'avoir cette voix-là, cette énergie-là pour le faire. Mais il faut comprendre que quand on est shooté en permanence aux médicaments et qu'on a en face de nous des gens qui nous posent des questions et qu'on n'arrive pas à aligner 3 mots ou même à faire des connexions d'idées dans notre tête parce qu'on est trop shooté, c'est vraiment une torture psychique, quoi. Et moi, je sais que, en fait, c'était ridicule. Je trouvais que la situation était ridicule. C'est-à-dire que d'un côté, ils nous foutent de médoc, ok, soit, mais dans ce cas-là, me demande pas de répondre à des questions.
Genre, faut choisir. En plus, des questions poussées, des fois. Parce qu'on va loin dans nos questions. Eh, c'est vrai que, j'avoue que ça, je le ressens de plus en plus. Enfin. T'es au lit, déjà t'arrives en hospitalisation, on commence à te shooter en te donnant des traitements et puis on te dit ça va prendre du temps pour t'adapter, pour que ton corps s'adapte, mais on te demande quand même de te lever, de faire des entretiens, d'aller à des ateliers, de faire ce genre de choses, alors que il y en a beaucoup qui disent, alors je sais pas toi si ça t'est arrivé, mais des vertiges du coup au début de la prise des traitements.
Ah mais le nombre d'effets secondaires, parce que moi du coup dans mon parcours, en fait j'ai l'impression que pour trouver le bon médicament, on est un peu tous et toutes obligés de passer par une phase expérimentale où les gens savent pas trop ce que t'as, parce qu'à cette époque-là j'étais pas diagnostiquée, et donc du coup ils testent des médocs et ils regardent comment tu réagis, quoi. En tout cas c'est vraiment l'impression que ça donne. Et donc du coup, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout testé, quoi. Des anti-anxiolytiques, des neuroleptiques, des antidépresseurs, des stabilisateurs d'humeur et tout. Et en fait, c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant parce qu'il y a énormément d'effets secondaires. Les médicaments en psychiatrie, c'est pas un doliprane, tu vois.
C'est ça.
C'est vraiment des médocs qui sont durs, qui sont lourds. Moi, je t'ai dit, j'étais complètement un peu mollasse, tu sais. J'arrivais plus à articuler correctement, j'arrivais plus à saliver.
Des fois, il y en a qui salivent trop, il y en a qui salivent pas. Mais c'est horrible parce
c'est
que
compliqué,
tu rentres dans la chambre. En fait, quand la personne te dit il est rentré, quand aux transmissions, on nous dit ben, un tel est rentré hier, tu sais que en fait, tu vas rentrer dans une chambre où la personne est allongée et où ben, tu vas lui demander comment ça va, mais en vrai, tu sais comment ça va, quoi. Donc les 3/4 du temps, c'est moi qui fais le monologue en disant « Écoutez, je sais que là, vous n'êtes pas forcément très très bien. Vous devez avoir tel symptôme, sûrement ça, ça, ça. Je comprends. » Je lui dis « J'imagine que vous avez peur parce que du coup, tu as l'impression d'être à l'extérieur de ton corps aussi parce que tu n'as plus, je sais pas toi, mais tu n'as plus ce côté, tu te reconnais plus en fait. Parce que du coup, tu as tellement… Bah, là, tu disais tout à l'heure que toi, tu t'avais… vachement pris sur toi, manipulé, pas manipulé, mais t'avais réussi à cacher le truc. Et puis là, t'arrives en hospitalisation, tu te dis, je vais pouvoir tout lâcher. Et en fait, on te bourre de médicaments. Et au final, tu te retrouves à, bah, t'es encore un peu à l'extérieur de ton corps parce que du coup, bah là, c'est plus toi qui gères. T'es plus dans un contrôle de ton corps en plus. Et mais moi, je l'avais senti quand j'en avais pris. C'était allongé dans ton lit et tu dis mais pourquoi j'ai des vertiges et pourquoi je me sens comme ça alors que j'ai rien fait? Je suis fatiguée alors que j'ai rien fait, alors que j'ai commencé à prendre soin de moi en allant voir mon médecin et en prenant des traitements. Et moi je me suis dit bah j'ai un fils en fait, c'est une surcharge mentale, j'ai un fils et je peux pas. Faut que je le dépose à la crèche, etc. Je peux pas faire ça, je peux pas prendre des traitements. Donc j'ai consulté une sophro et on a trouvé d'autres solutions. Mais je l'ai vu, en fait, sur une semaine, tu sens plus vraiment ton corps et tu te dis, mais... Et mon médecin m'avait dit, mais vous inquiétez pas, ça prend 21 jours. Mais oui, je sais que ça prend 21 jours, un antidépresseur. Et C'est vrai qu'en France, je crois qu'on est les champions pour donner des antidépresseurs parce que des fois aussi, à domicile, les médecins, ils savent pas trop quoi donner aux gens parce qu'ils ont pas le temps d'écouter, parce que voilà. Et puis les gens, tu vas leur dire, bah peut-être aller voir une psy, et pour eux, c'est encore un autre pas. Donc bah ils ont que ça en fait à donner. Et j'avoue que les traitements, moi. J'essaye des fois d'autres techniques quand je suis infirmière. J'essaye de trouver. Je leur dis, bah, vous voulez pas qu'on essaye la méditation, on essaye autre chose avant de donner les traitements. Alors, des fois, ça finit par passer sans traitement, mais je trouve que, enfin, bourrer les gens de traitements, c'est toi par exemple au début, c'est tu le dis, ça a été expérimental en fait. On t'a testé tous les traitements, c'est ça?
Bah j'ai l'impression qu'il y avait de ça, et aussi j'avais l'impression que vu qu'ils étaient cruellement en manque de moyens humains, je pense qu'ils n'avaient pas le personnel pour encadrer le nombre de patients qu'on était. Du coup, j'ai l'impression que c'était un peu ils nous cassent aux anti-anxiolytiques, là.
Ouais.
C'est un peu un moyen de s'assurer qu'on ne va pas faire de crise ou qu'on va pas... Ouais. Vu qu'on est un peu assommé dans nos lits.
Ouais.
Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y avait un peu cette double dimension de... Mais c'est que... Enfin, je veux dire, c'est que des suppositions. Moi, je suis pas.
Je suis pas certaine parce que, enfin, non plus. Mais c'est une solution de facilité entre guillemets parce qu'on n'a pas d'autres moyens de t'aider. Donc oui. Et du coup, donc on a parlé des traitements, des hospitalisations. J'avais vu sur ton compte que tu parlais de tous ces papiers que tu as dû remplir pour ta prise en charge. Qu'est-ce que c'est que tous ces papiers et qu'est-ce qui t'ont permis d'avoir aussi après ?
Alors, oui, donc en fait, alors, cette vidéo, je sais qu'elle a fait un peu polémique sur les réseaux sociaux parce expliquer un peu, j'ai fait une vidéo où je montrais tous les tests qu'on me demandait de faire en psychiatrie. Donc, il y avait vraiment beaucoup de tests, ça m'a pris énormément de temps, vraiment, c'était une charge, moi j'en voyais plus le bout, il y avait des papiers, des tonnes de questions et tout, bref, mais je tiens quand même à souligner que ce n'est pas une obligation, on peut refuser de les faire, d'accord ? Donc j'avais le choix de les faire et j'ai choisi de les faire, parce que aussi moi j'ai envie de tout mettre en place pour, je fais tout ce qu'on me demande de faire,
oui.
mais je veux avoir un mieux-être dans ma vie, etc. Donc toutes ces feuilles, en toute sincérité je sais pas avec exactitude ce que ça permet d'évaluer, mais bon voilà, à titre d'exemple, il y avait un questionnaire sur les traumas, il y avait un questionnaire sur la dissociation, donc je pense que ça permet un peu d'évaluer ce qui se passe dans notre tête, est-ce qu'on est vraiment présent à nous-mêmes, est-ce que tout ça, etc. J'ai pas encore eu les résultats de ces tests, mais en gros, il y a eu une partie des tests qu'on m'a donné dès le premier jour à l'entrée de l'hôpital de jour. Donc voilà.
Et eux... c'est vraiment pour diagnostiquer, c'est pourquoi ils t'ont expliqué pourquoi exactement ils t'ont donné ces tests ?
Je pense pas que ce soit pour diagnostiquer, je pense que c'est pour voir la thérapie que j'ai fait en hôpital de jour, ça s'appelle la thérapie des modes et des schémas, et donc du coup forcément il y avait les questionnaires des modes, les questionnaires des schémas, donc pour savoir un peu quel schéma est prédominant, dans quel mode je suis le plus souvent, etc. Je pense que c'était plus des tests dans ce but là, et il y avait aussi un test sur les figures parentales, savoir quelle figure parentale on a eu, parce que pas tout le monde a un papa et une maman. Il y en a qui ont été élevés par la grand-mère, la tante, l'oncle, la nourrice, les parents adoptifs, etc.
Oui.
Donc on n'a pas tous les mêmes figures parentales, et il y avait quand même aussi ce truc. Moi, j'ai quand même eu des vraies révélations à travers ces tests sur certains trucs où vraiment... ça a fait des déclics et j'ai vraiment pris conscience de certaines choses grâce à ces tests. Ensuite, il y avait d'autres tests que là, pour le coup, c'est ma psychologue, donc en profession libérale, qui m'a donné. Et c'est pareil, dès la première séance, elle m'a donné une batterie de tests à faire. Donc ça, pour le moment, j'ai pas encore les résultats. Mais voilà, c'est vrai que ça fait une vraie charge parce qu'il faut prendre du temps et que c'est des questions, c'est vraiment pas des questions qui sont simples et faciles, c'est des questions qui sont vachement compliquées à répondre, et en plus de ça, ça réveille, ça peut réveiller des traumas, ça peut réveiller plein de choses, et en plus de ça, moi j'avais l'impression que quand je remplissais les tests, que en plus je me contredisais, c'était des trucs contradictoires, parce que bah, je suis pas tout le temps la même personne, entre guillemets, des fois je me trouve trop géniale, des fois je me trouve horrible, des fois j'ai l'impression que mon vécu il est trop génial, des fois j'ai l'impression que mon vécu il est trop horrible, des fois j'ai l'impression d'être hyper lucide, des fois j'ai l'impression d'être complètement à côté de mes pompes, donc voilà, vraiment, plus je remplissais, plus je me disais, mais en fait je me contredis complètement, je sais pas ce qu'ils vont tirer de ce truc là, mais, mais je trouve que ça témoigne de la dysrégulation de mon psyché, vraiment de façon assez impressionnante. Donc voilà, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Enfin voilà, si je n'avais pas eu envie de le faire, je ne l'aurais pas fait.
Oui, parce que c'est une charge un peu en plus, du coup, tout ça. C'est, j'imagine que oui, c'est pour ça qu'il ne vous oblige pas. Donc ça, c'était tout ton passé. Je crois qu'on a fait le tour. Je réfléchis à si j'avais d'autres questions. Non. Aujourd'hui, comment tu te sens? Quelle thérapie tu as? Comment, entre guillemets, est ta vie? Alors, tu vis encore chez ta maman, j'imagine. Enfin, du coup, tu disais tout à l'heure que c'était un soutien, donc j'imagine que ben, ça, tu veux le garder en ressource.
Ouais,
et,
ouais.
Oui, quelle est ta prise en charge actuellement?
Alors, donc là, déjà, j'ai un traitement médicamenteux qui marche, qui fonctionne. J'ai un stabilisateur d'humeur. Donc ça a véritablement changé ma vie. C'est une béquille énorme parce que cette sensation de vide quasi constante que j'avais depuis des années, bah là, je la sens moins. Donc déjà, ça, c'est chouette. Et en fait, c'est pas tant... comment dire ? C'est pas tant « Ah, oh, maintenant, je suis guérie, c'est trop bien, tout va bien. » C'est plus « Je sais que j'aurai toujours des difficultés, des hauts très hauts et des bas très bas. » Sauf que maintenant, je suis encadrée. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire, je ne crains plus mes pics émotionnels parce que je sais qu'il y a un soutien derrière, je sais que j'ai mon psychiatre qui est là, et si jamais il y a des pensées parasites ou des comportements qui peuvent être dangereux pour ma sécurité, je sais que mon psychiatre, lui, il a les mots, il a l'expertise pour pouvoir me sécuriser dans ces moments-là. Donc ça, c'est trop bien. Et en plus de ça, j'ai entamé un parcours en psychotrauma avec une psychologue qui fait de l'EMDR. Donc l'EMDR, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une technique de désensibilisation au trauma avec des mouvements des yeux. Donc là, ça fait plusieurs séances que je fais parce que j'ai compris que j'avais un état de stress post-traumatique qui était très présent depuis des années. En fait, c'est affreux parce que ça m'empêche totalement de vivre. Donc je mets énormément d'espoir dans cette thérapie, et là, ma préoccupation première, c'est mon bien-être, ma santé mentale, et réussir à me débarrasser de cet état de post-traumatique. Donc voilà, en ce moment, ma préoccupation première, c'est ça, parce que aussi, ça faisait 2 ans que j'étais hôtesse d'accueil, et en fait, j'ai compris que continuer à travailler, continuer à faire comme si de rien n'était, finalement, moi, je me suis fait totalement rattrapée par ma maladie, et finalement ça fonctionne pas de continuer coûte que coûte dans son quotidien en disant non non mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, et ben non, en fait ça va pas. Donc voilà, là je me suis dit, je me prends un temps où, bah là j'ai fait 4 mois d'hôpital, donc voilà, j'ai fait 4 mois d'hôpital, je vais voir mes psys et je suis encadrée, je fais tout pour aller mieux.
D'accord. J'ai une grosse question là qui me vient, parce que on s'imagine pas la charge financière aussi.
Ouais, c'est vrai.
De tout ça. du coup, comment, alors, les hospitalisations, comment c'est pris en charge chez ta mutuelle? C'est, j'y connais pas grand chose à tout.
Alors, donc moi j'ai été diagnostiquée.
Oui.
Et donc je suis prise en charge à 100% avec les ALD.
D'accord.
Et ça, c'est l'un des critères pour être hospitalisé en hôpital de jour. Je me souviens que dans l'entretien de préadmission, oui, ils nous demandaient « Est-ce que vous êtes pris en charge à 100% ?»
Oui.
Ça, c'est important. Pareil, le psychiatre, bah moi, je le paye pas parce que prise en charge à 100%, j'ai besoin d'un psychiatre dans ma vie.
Oui.
Voilà, j'ai besoin d'avoir mes ordonnances et mes médicaments.
C'est, alors, on dit tu le payes pas, mais en vrai, enfin voilà, on paye tous à la sécurité sociale par n'importe quel moyen. Donc, tu contribues quand même à payer un petit peu les gens qui vont dire, enfin vraiment, enfin voilà, celle-là, elle est assistée, non, pour moi, enfin, on contribue tous à la sécurité sociale par, enfin voilà, par nos salaires, par tout ce qu'on donne, etc. Et en fait, bah, c'est nécessaire pour certaines personnes d'avoir cette sécurité sociale et il faut qu'on essaye de la conserver. Et du coup, oui, j'imagine que c'est bien pratique parce que je sais pas si tu reçois tes relevés, mais le coût d'une consultation, c'est quand même assez important. Bah, mais comme t'en as besoin, je suis totalement d'accord. De toute façon, l'ALD, je crois qu'en hôpital de jour, je crois que c'est presque obligatoire d'être, pour être pris en charge en hôpital de jour, il faut obligatoirement l'ALD, surtout dans les hôpitaux de jour psychiatriques. Je crois que j'avais vu en obésité aussi, c'est obligatoire d'être souvent pris en charge. Donc bref, c'est nécessaire, mais j'avoue que c'est un coût et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans le recul de prendre en charge ce genre de choses parce qu'ils préfèrent prendre en charge sur d'autres choses et je trouve que pourtant, on devrait tous prendre soin de nous en faisant une thérapie justement et je sais que ça coûte, mais c'est important.
Bah c'est ça.
Et du coup, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, je trouve que, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu fais vachement d'actions. Je t'ai vu donc dans Combini, je t'ai vu dans plein de choses et on a oublié de parler de quelque chose parce que voyageuse au naturel, le nom de ton compte, il parle de quelque chose quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te déguiser en pastèque et que tu fasses du stop en fait? J'aimerais bien comprendre. Bah, ça c'est tout passé et on a oublié d'en parler.
Ouais, ça c'était il y a longtemps et tout. En fait, de base, si mon compte s'appelle Voyageuse au naturel, c'est parce que j'avais un blog de voyage. D'accord. Qui n'existe plus aujourd'hui et j'en suis très, très déçue. Mais voilà, j'avais un blog de voyage et en fait, j'ai voyagé 8 mois en Amérique latine. Et j'ai fait aussi un tour de France en autostop, déguisé en pastèque. Voilà. Donc là, c'est le moment où je perds la moitié des gens quand je dis que je l'ai fait déguisé en pastèque. Mais si tu veux, c'était... en fait, comme toutes mes actions, vraiment, tout ce que je fais et toutes mes actions vont dans le sens de recréer du lien entre êtres humains, entre gens. les réseaux sociaux, c'est bien... Mais c'est encore mieux si c'est utilisé de façon à créer du lien entre les gens, à s'ouvrir l'esprit à d'autres choses et à libérer une parole et surtout à encourager des bonnes initiatives. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaye d'utiliser mes réseaux. Et donc, la pastèque, c'était allez, on va regarder si l'autostop ça fonctionne. Et le but du jeu, c'était de s'éclater et de s'amuser. Je voulais le faire déguiser. Et ça a été la pastèque, le premier truc qui m'est venu. Et c'est trop génial. Parce que la pastèque, ça a créé de faire plein. Enfin, ça a permis de créer plein de liens avec plein de gens. Et c'est vraiment communiquer de la joie et du bonheur partout autour de soi le plus possible. Donc et tous mes voyages sont dans ce sens-là. J'ai fait un tour d'Europe en autostop, donc ça c'est pareil. C'était entre deux hospitalisations, je me suis dit, bon, il y a un mois de libre, c'est maintenant ou jamais. Donc je prends mon sac à dos et je regarde si ça fonctionne, sachant que financièrement, j'avais pas du tout les moyens financiers de faire un tour d'Europe. Je l'ai fait en autostop et en me faisant héberger le plus possible, mais si tu veux... la beauté de cette démarche, c'est que ça aurait pu ne pas marcher. J'aurais pu rester toute seule, sous la pluie, avec le pouce levé et ma pancarte qui dit « Hey, tour d'Europe !» Et puis voilà, mais en fait, j'adore faire des projets où en fait, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens derrière. Et sinon, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est un peu ce truc de s'abandonner totalement à l'entraide et à la bienveillance des gens et de voir ce que ça donne.
Je suis totalement d'accord. Moi, je ne me fais pas de gros voyages comme ça, mais tu vois, pour aller voir un invité à la Canoë au mois d'août, jusqu'à 21h, je ne savais pas où dormir. Et j'avais mon sac à dos, je me suis dit, après, t'as la plage, si vraiment, tu ne trouves rien, quoi. Et en fait, je me suis laissée porter et j'ai rencontré une dame qui me dit, mais vous dormez où cette nuit ? Nulle part. Vous dormez chez moi, en fait. Ok. banco. Et au final, on a discuté, je crois, jusqu'à minuit, une heure de tout, de la vie. Et tu dis, waouh, merci la vie, quoi. Merci de vivre des choses comme ça sans avoir cherché. Enfin, c'est pas sans chercher, mais c'est en vivant dans l'instant présent, sans chercher à... Bah ouais, je vais demander aux réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez me trouver quelqu'un, m'aider, etc. Alors, ça peut fonctionner, hein. Mais je trouve que c'est tellement bon de se laisser porter et de se dire, voilà, bah, j'avance et je me laisse vraiment porter. Antoine, j'irai dormir chez vous, c'est... Bon, il filme, mais... et même... mince, nu et culotté. C'est des mecs qui filment et c'est génial tout ça. C'est de se rendre compte qu'en fait... on a encore un espoir, l'humanité est quand même encore là, tu vois, les gens qui sont là, qui t'accueillent, mais sans rien, en fait. Moi, j'ai souvent envie de dire, mais je vais te donner quelque chose, mais en vrai, non, la personne, elle est là, humainement, c'est juste du partage, de l'échange, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de... Enfin, voilà, tu cuisines un peu, tu fais un peu de vaisselle, et voilà, c'est une monnaie d'échange, et c'est génial, et je fonctionne de plus en plus comme ça et j'apprends avec mon fils à le faire aussi. Il a 4 ans et demi. Et c'est bon, en fait, de se dire les gens sont tellement réceptifs à ça. Et je passe des soirées tellement bonnes, en fait. Je pense que ça doit être ça aussi dans le voyage quand tu vas en Europe, etc. C'est... le stop, je ne me le suis pas tenté. Mais pourquoi pas, là, tu me tentes, en fait, de me le dire, pourquoi pas le tenter. Ça doit être une aventure, en fait, géniale à vivre de rentrer et d'être... c'est de plus avoir peur, en fait. C'est de plus vivre dans la peur, c'est vivre dans l'amour de l'autre et dans l'amour de... On découvre d'autres choses. Et c'est ce que j'ai apprécié. Alors, c'est sûr qu'effectivement, je ne l'ai pas beaucoup vu quand j'ai vu ton compte. Je me suis dit, voyageuse au naturel, je ne le vois pas beaucoup. Mais après, quand j'ai écouté le podcast et tout, je me suis dit, ah ouais, quand même. Enfin, voyager en pastèque, faire du stop, c'est génial. Ça prouve qu'au final... C'est aussi une ressource, puisque entre deux hospitalisations, du coup, t'as fait ça, quoi. C'est génial.
Et puis, au-delà de l'aventure que ça représente, l'autostop, c'est aussi toute une mentalité de se dire, peu importe ce qui vient, je l'accueille. Je sais que peu importe la voiture qui va s'arrêter, peu importe la personne que je vais trouver dedans, que je vais rencontrer, je sais, en fait, que ça va bien se passer, j'en ai aucun doute. Parce que si la personne, elle s'arrête, ça veut dire qu'elle a envie, qu'elle est ouverte à cette démarche. Et oui. Moi, si je le fais, c'est que je suis aussi dans le partage, etc. Et ça donne à chaque fois des échanges qui sont merveilleux et trop génial. Et même parfois des gens qui pourraient être un peu réfractaires, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas trouver de voiture et d'être là... Et donc, du coup... Pour l'exemple, j'étais en République tchèque et j'étais à la frontière. Non, j'étais en Autriche et je devais passer la frontière de la République tchèque. Je trouvais pas de voiture et tout. Y a un gars qui s'est arrêté, je me suis jetée sur lui, mais vraiment. Et j'ai dit, je lui ai dit, je vous en supplie, prenez-moi et tout. Même si c'est pour que 5 minutes et que vous m'emmenez au village juste à côté, moi ça me va. Et de base, il était hyper. On sentait qu'il faisait un peu la gueule, tu vois. Et en fait, finalement, je lui ai montré que je parlais, j'étais cool, j'étais sympa, j'étais souriante. Et finalement, lui, il a vu que c'était un bon moment à passer. Et en fait, il m'a pris pour une heure de trajet, chose qui est de base, c'était genre 5 minutes. Et en fait, le gars a véritablement passé un bon moment. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à créer. C'est transformer la peur en se disant en fait ça se passe super bien et en fait quand ça se passe super bien on a envie de rester avec la personne et je trouve que ça témoigne aussi d'un mal-être de notre société qui est la solitude. Il y a plein de gens qui dans leur quotidien, le trajet pour aller au boulot c'est tout le temps le même, le soir quand ils mangent c'est tout le temps le même plat. Et en fait, ils sont juste trop contents d'avoir quelqu'un chez eux qui vient un peu apporter de la joie et de la bonne humeur dans un quotidien qui peut être très monotone, très... Moi, ça m'est arrivé un milliard de fois, des gens qui, sur leur trajet du boulot le matin, me prennent en autostop. Et en fait, ils démarrent trop bien leur journée parce qu'eux, en plus, ils ont l'impression d'avoir fait la bonne action de la journée. Ouais. Oui. Et puis moi, je suis trop heureuse parce que du coup, on a vraiment passé un bon moment. Je leur raconte tout le périple que j'ai fait de mon tour d'Europe. Enfin, tous les pays et tout. Et en fait, c'est ça. C'est une monnaie d'échange, mais c'est des vrais échanges de la personne. elle m'avance sur mon chemin, mais en échange, moi j'égaye sa journée, tu vois. Et c'est vraiment revenir à des choses très très basiques, mais qui pourtant sont pas aussi évidentes à trouver dans la vie du quotidien de tous les jours, quand tu fais métro, boulot, dodo tous les jours. Ouais, genre t'es bien content ou bien contente d'avoir une petite, petite voyageuse, une petite nana en sac à dos qui te raconte des histoires fun et sympas, c'est chouette quoi.
Trop bien. Bah, je trouve que c'est une belle avancée. Tu penses que tu vas continuer ce genre de choses ou pas?
Ouais, bah j'espère que je referai de l'autostop et tout carrément, parce que moi c'est mon moyen de locomotion que j'aime le plus. Après, j'ai conscience que pour faire de l'autostop, c'est quand même, il faut avoir le luxe du temps. Faut avoir du temps et il faut surtout pas avoir de contraintes pour vraiment se laisser porter. Et ça, c'est vrai que c'est des caractéristiques qui sont pas forcément. Enfin voilà, moi j'ai pu le faire parce que j'avais un mois de libre et de dispo avant de retourner en hôpital psychiatrique, donc j'en ai profité à fond. Mais voilà, il faut avoir ce luxe de se dire « bon bah je sais pas où je vais dormir ce soir » ou « je sais pas où est-ce que je vais être dans une heure ou dans deux heures ». Et ça, c'est vrai que voilà, il faut pas se dire « ok, à 15h je dois être à Lyon parce que j'ai un truc ». Parce que en fait, sinon ça rend l'expérience, je pense, beaucoup plus stressante et beaucoup moins amusante.
C'est ça, c'est ça.
Donc ouais, il faut que ça reste un plaisir.
Et ben c'est génial tout ça. Du coup, donc tu continues ta thérapie et donc j'aimerais parler, parce qu'en fait je parle aussi beaucoup des ressources dans l'amour de soi avec les personnes que j'interviewe pour ça. Toi, tu as une boîte de la tolérance à la détresse. Raconte-nous cette petite boîte.
Bah ça, c'est un outil qu'on a créé en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire, on avait des ateliers d'art-thérapie quand j'étais en hôpital de jour. Et donc, on nous a demandé de ramener une boîte. Donc, n'importe quelle boîte. Moi, j'ai pris une boîte à chaussures. Hein. Je suis vraiment pas... vraiment pas... voilà, on n'est pas dans la... comment dire, dans l'excentricité, dans tout ça. Oui. Mais...
Tu l'as bien décoré, je trouve, par contre.
Ouais, bah c'était trop bien, parce que t'as du vernis-colle, t'as du papier. Enfin, tout le monde s'est un peu prêté au jeu, donc il y en avait qui avaient ramené du scotch un peu cool. Enfin, c'est trop bien, genre des gommettes, ce que tu veux. Donc de un, ça crée une activité artistique, t'as ta petite boîte personnalisée, t'es trop content et trop contente. Et de l'autre, en fait, l'idée de cet outil, donc ça s'appelle une boîte de tolérance à la détresse, et l'idée de cet outil, c'est d'y mettre toutes les ressources disponibles et personnalisées pour soi dans des moments de crise ou de détresse. Donc à titre d'exemple, ça peut être toutes les phrases que j'ai besoin d'entendre quand je suis en période de crise, les numéros d'urgence, je sais pas, tu peux mettre un paquet de bonbons que t'adores, parce que voilà, ça va te calmer, des odeurs, des huiles essentielles, des idées d'activité, par exemple, bon bah moi je sais que c'est la peinture, quand j'ai des pics émotionnels, je peins, ou alors je me balade en forêt, ou alors quand vraiment je suis très... Enfin, quand je suis frustrée, bah vas-y, je vais aller faire une activité sportive. Enfin, c'est vraiment des choses très très basiques et très très simples, et pourtant ça fait toute la différence, parce que ce qu'il faut savoir quand on est en période de crise, c'est qu'on voit tout en noir, et que c'est très très compliqué de voir les solutions et ce qu'on peut faire dans ces moments-là pour calmer la crise. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit une boîte de prévention avec tout déjà pensé, disponible tout de suite maintenant, que tu peux faire tout de suite. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un super outil, donc c'est pour ça que je l'ai partagé sur mes réseaux, parce qu'en effet, on avait des groupes de parole de tolérance à la détresse, du coup, donc on parlait vraiment de ce qu'on faisait, qu'est-ce qui déclenchait nos crises, qu'est-ce que ça provoquait chez nous, etc. Enfin moi, c'était les groupes de parole qui étaient le plus difficilement soutenables, c'est ceux avec lesquels j'avais le plus de mal. Et pourtant, il existe des solutions. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que avant ces groupes de parole, avant cette hospitalisation, moi, je voyais pas de solution. Pour moi, c'était bon, bah, c'est des moments horribles qui se passent n'importe quand, et je dois juste subir et attendre que ça passe. Alors que là, on t'explique que bah non, il y a des choses à faire, il y a des solutions, et ça, c'est vraiment cool et c'est vraiment chouette.
Et moi, je conseillerais, alors j'avais fait mon tout premier épisode, c'était justement par rapport à l'amour de soi. Et moi, ce que je faisais, et je te l'ai dit, c'est que, en fait, moi, d'avoir vu cette boîte de la tolérance, ça m'a remis en place, parce qu'il y a quelques mois, j'avais mis en place mes ressources à moi. Et c'était, rien que, alors, toi, je sais que c'est un peu comme moi sur les réseaux sociaux. Du coup, je fais des captures d'écran, des messages positifs des gens. Et je me suis créé une adresse mail. Et mes proches à la création du podcast. Un jour où quelqu'un ou ma meilleure amie m'a dit « Punaise, aujourd'hui, tu m'as redonné de l'énergie. » Je fais une capture d'écran de son message et je me l'envoie sur cette boîte mail. Les vocaux de mes amis, etc. Tout ça, c'est des petites ressources. Moi, j'ai la ressource de la danse. Juste avant qu'on fasse l'interview, souvent, c'est ça, c'est mon truc, c'est de danser et de décharger un peu. J'ai de la méditation aussi. Et tout ça, c'est des choses où on a chacun nos ressources. Il y en a pour qui ça va être le sport à fond. Et je trouve que de vous l'apprendre, entre guillemets, parce que je trouve qu'on devrait nous l'apprendre à tous à l'école, en fait, ce genre de choses, d'avoir nos ressources et de trouver les ressources pour se sentir mieux, en fait. On a chacun nos propres ressources. Il y en a pour qui c'est la musique, il y en a pour qui c'est le dessin, la peinture. Et je trouve que même alimentaire, oui, moi, je devrais faire des cookies tout le temps en permanence chez moi, où j'ai tout le temps du chocolat chez moi, parce que je sais que le chocolat, ça me fait du bien. Un carré de chocolat. Et mon fils, c'est pareil. Donc, on a tout le temps du chocolat, on sait où c'est. Toi, c'est les bonbons. Et je trouve que c'est important d'avoir ses propres ressources et quand on est bien, justement, de revoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on aimerait quand on est en crise. Et moi, c'est vrai que quand j'ai une grosse baisse de morale, je me dis, mais pourquoi tu fais ce podcast? T'étais infirmière, t'avais un CDI et tout. Et là, t'es en train de tout lâcher pour un truc que tu connais pas. Tu sais pas comment ça va se passer. Et je me dis, non, mais regarde les messages de tes proches, les messages même des inconnus. Quelqu'un qui me dit que il a fait le ménage en écoutant mon podcast, c'est génial. Et quand je vois les pays qui écoutent mon podcast, ça me fait halluciner. Et de se dire, bah ouais, en fait, je fais ça aussi pour ça, pour transmettre quelque chose. Et toi, tu le fais aussi pour ça. Tu transmets beaucoup d'amour, en fait, dans tout ce que tu véhicules. Et je trouve que les ressources personnelles, parce qu'on pense toujours que sur les réseaux, tout ce que les gens montrent, c'est la vie. Mais en fait, entre un poste ou deux, t'as quand même ta vie. Et moi, ça peut m'arriver aussi de pleurer et de me sentir mal. Et je trouve que cette boîte de la tolérance est géniale. Parce que moi, vraiment, merci, ça m'a remis les idées en place en me disant, mais toi, c'est quoi actuellement tes ressources? Ah, bah, t'en as oublié quelques-unes. Alors, tu devrais. Peut-être que ça te ferait augmenter ton taux de tolérance et d'amour pour toi. Et c'est génial. J'ai vraiment adoré. Donc, voilà. T'as un visuel sur ton futur professionnel ou ton futur personnel à part tes traitements et ta thérapie ou pas spécialement?
Je sais pas. Le futur, ça c'est quand même une notion qui est très compliquée. Pour le moment, je me vois militer vraiment très très fort le plus possible, ouais. tant que j'en ai la voix, l'énergie, l'envie. Ça me tient beaucoup trop à cœur. Tout ce qui touche à la santé mentale et tout, pour moi, c'est une telle souffrance dans ma vie, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, j'ai vraiment cette volonté de, le plus possible, essayer de faire entrer cette thématique dans le débat public. Donc, j'espère, j'y mets tous mes espoirs et j'espère très très fort que ça va marcher. Mais sinon, non, j'ai pas de projet, de projet très spécifique. Pour le moment, je suis tellement dans essayer de, pas de me guérir, mais de me stabiliser, d'essayer de me débarrasser de tous ces démons et de toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer. Mm-hmm. Pour le moment, c'est ça ma priorité, vraiment. Et j'y mets tous mes espoirs et tout mon investissement financier, temporel, énergétique là-dessus. Et de toute façon, enfin... Tu sais, à chaque fois, le 31 décembre de chaque année, on fait tous et toutes nos...
nos résolutions.
Nos résolutions de la bonne année, nos souhaits, etc. Et moi, l'année dernière, ce que j'ai souhaité le plus possible, c'était vraiment, mais en fait, je veux rien, je veux juste avoir une bonne santé mentale. Et toute cette année était dédiée à ça. Je veux avoir une bonne santé mentale. Donc déjà, si j'arrive à ça, mais vraiment, j'aurai tout gagné. Vraiment, vraiment, vraiment. Et peu importe le métier que je vais exercer, peu importe les liens que je vais créer, peu importe quel quotidien je vais avoir, pour moi, le plus important, c'est déjà de psychiquement me sentir épanouie. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un luxe, c'est un privilège, c'est un luxe que les gens ont et ils ne se rendent pas compte parce que souvent on se rend pas compte de ce qu'on a. Et moi la première, chaque année j'ai ma grand-mère qui me dit le plus important c'est la santé Et moi, chaque année, j'étais non, mais moi, je veux ci, je veux ça et tout. Je m'en fous de la santé, c'est pas ça. Moi, je veux. Enfin, bref. Et jusqu'au jour où bah, t'as un problème de santé. Et là, tu comprends que, ah ouais, merde, en fait, ma grand-mère a carrément raison depuis toutes ces années. Elle me dit le plus important, c'est la santé. Tant que la santé, ça va, c'est bon. Et c'est moi, ça. J'étais non, mais enfin, voilà. Et en fait. Voilà, mémoire de l'histoire, toujours écouter ses grands-parents,
c'est ça.
Ou ses parents et tout.
Exactement ça.
Ouais.
J'aimerais juste que tu, si tu as la possibilité, alors, de, si tu as des conseils ou des erreurs qui sont passées dans ta prise en charge, oui, des conseils pour des personnes qui voudraient être diagnostiquées ou ce genre de choses, bah vas-y, je te laisse la parole.
Bah alors, le conseil que je donnerais numéro un, c'est si vous avez des pensées noires, des pensées sombres, ne restez pas seul avec ça et allez consulter un professionnel de la santé mentale. Même si tu te dis, c'est rien, ça va passer, on s'en fout, etc. De toute façon, je vais me retrouver face à un psy, je vais pas savoir quoi dire. Rassure-toi, y a des professionnels qui sont faits pour ça, pour accueillir ce type de pensée. Et je pense que vraiment en parler peut vraiment tout changer et faire toute la différence. Moi, c'est l'un de mes plus grands regrets de ne pas en avoir parlé dès le début et d'avoir autant tardé. Et finalement, c'était limite trop tard, quoi. Fallait... Enfin, bon, bref. Même si, attention, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Non, c'est ça.
Donc, voilà. Et en petit 2, c'est le plus possible changer le regard qu'ont les gens sur le monde de la psychiatrie pour arrêter d'être stigmatisé, pour en avoir moins honte, et puis ouais, pour pouvoir en parler librement à nos proches, enfin même idéalement, vraiment moi ce que j'aimerais, c'est avoir un travail qui prend en compte mes soucis de santé mentale. Ça, ce serait le bonheur absolu, d'arrêter de se cacher sur son milieu professionnel et de véritablement parler de ses difficultés pour avoir un travail adapté, pour avoir des relations qui soient adaptées, pour avoir tout ça, parce que ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à repenser dans le modèle de notre société actuelle pour que ce soit adapté à tout le monde.
C'est vrai que dans le professionnel, au final, si t'as un entre guillemets un handicap physique, bah du coup, enfin voilà, t'es pris en compte, mais c'est vrai que les maladies psychiatriques ne sont pas prises en compte dans ce, enfin dans tout ça, et du coup, j'imagine que oui, dans le milieu professionnel, ça doit être compliqué.
C'est l'une des problématiques qui revient le plus souvent aussi. Y a plusieurs problématiques qui reviennent, mais le monde du travail, c'est un vrai problème, et pour plein de gens. Parce que le plus souvent, et ça s'est confirmé durant les groupes de parole que j'ai fait en thérapie de groupe, en fait, on a tellement des mauvaises expériences, on est traumatisé en fait par le milieu du travail, mais vraiment très profondément traumatisé, et du coup, y revenir, c'est très très compliqué, parce que ça provoque des crises de panique, des crises d'angoisse, c'est une suradaptation permanente, c'est vraiment très compliqué. Donc ouais, le monde professionnel, c'est une vraie thématique, parce qu'il y a ce truc-là de... c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est ça nous détruit vraiment. Donc il y a quelque chose, enfin ouais, il y a une vraie adaptation, il faut faire quelque chose là-dessus parce qu'il y a trop de gens qui souffrent de ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'adapter le monde du travail aux maladies mentales ou aux pathologies psychiatriques et tout. C'est que plutôt que quelqu'un qui va taper arrêt maladie sur arrêt maladie sur arrêt maladie, autant directement adapter le poste à ses difficultés pour que justement elle n'ait pas tout le temps, tous les 6 mois, à faire un burn-out et à disparaître des radars parce que trop détruite. Donc bon, voilà, ça c'est une question très ouverte. Il faut, je sais qu'il y a des aides qui sont mises en place. Enfin, voilà, il y a des postes pour les personnes handicapées. Donc, il faut faire les démarches pour avoir la reconnaissance, etc. Mais bon, voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous et toutes à y gagner là-dedans aussi.
J'ai 2 dernières questions. Alors, une habituelle, c'est est-ce que tu t'aimes ? Ce sera à la fin. Mais il y en a une, j'aimerais te la poser parce que du coup, tu es dans la santé mentale. J'avais ma question qui m'est venue, c'est... si tu avais le président de la République en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à la santé mentale en France ?
Wesh Manu ! Bien ou bien ? Non, je rigole. si j'avais Emmanuel Macron et que j'avais la possibilité de lui parler, ouais, je pense que le premier truc que je lui dirais, c'est est-ce que c'est possible de mettre plus de moyens dans le monde psychiatrique, parce qu'il y a des gens qui sont un peu traumatisés de temps en temps et c'est un peu compliqué. Donc en vrai, en un, je dirais vraiment mettre les moyens dans la psychiatrie, humains et matériels, pour véritablement aider des personnes. C'est trop important. Petit 2, faire une campagne sur les maladies psychiatriques pour arrêter d'être moins stigmatisé, d'en avoir moins honte, pour changer de regard sur la psychiatrie en disant « Non, l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas pour les fous ou pour les folles, entre guillemets, c'est pour n'importe qui vit une difficulté dans sa vie qui doit y avoir accès. » Voilà, et puis même si on garde cette image de la psychiatrie, c'est pour les fous, imaginons moi, quand on m'a dit que j'étais hospitalisée, on peut dire bah non, moi je suis pas folle, pourquoi vous voulez que, enfin tu vois, donc ça peut poser des vraies problématiques. Et enfin, dernièrement, en 3, ce serait la réinsertion en société dans le monde professionnel, pour réadapter le milieu professionnel aux personnes qui ont des difficultés ou des pathologies psychiatriques. Donc, par exemple, faire des formations en entreprise sur le bien-être au travail, sur la gestion du stress, sur, les conflits entre collègues, etc. Ça peut être avoir des horaires aménagés, ça peut être tout plein de choses, avoir une cellule, par exemple, on peut imaginer avoir une psychologue dans les entreprises qui soit là et où on puisse venir en parler de façon totalement anonyme, pouvoir de temps en temps aller voir le psy entre deux réunions au taf, tu vois, entre c'est deux ça. Crises de panique. Donc voilà, et puis plus globalement, arrêter d'avoir, des open space comme ça, là, où par exemple, tu peux avoir de la pollution auditive, sonore, et ça peut aussi... Enfin, il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein de choses.
Ouais, en fait, il te faudrait toute une journée pour tout lui expliquer, quoi.
Ouais, grave. Mais en vrai, c'est des choses qui me paraissent pas si inaccessibles que ça, tu vois. C'est juste... y mettre plus de moyens.
Pour les mettre en place, en fait, il faut réorganiser tout ça. Et en France, on n'aime pas forcément le changement.
Grave.
On aime bien notre petit truc... très stable.
C'est ça.
Mais pourtant, je crois que son slogan, c'était « Le changement, c'est maintenant » ou quelque chose comme ça, non ?
Ouais.
Et finalement, on n'a pas eu trop de changements. Mais pourtant, je suis sûre que si on revoyait nos pratiques, le système de santé actuel, ce serait tellement bon, en fait. Et même, je pense que même les soignants, on aurait de plus en plus de soignants. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est une pénurie parce que les gens n'ont plus envie de faire ce métier. Mais si on revoyait nos pratiques réellement, et qu'on pouvait tous les instaurer, ce serait un monde différent au niveau de la santé en France. Et moi, si je le rencontrais, j'aurais aussi pas mal de choses à lui dire.
Grave. Mais...
Après 12 ans d'activité, je pense que là, il lui faudrait 2 jours ou 3 jours. On passera un week-end ensemble. Ouais. Et ma dernière question, Abigail, est-ce que aujourd'hui tu t'aimes?
Je pense que l'amour de soi, c'est un vrai chemin et c'est quelque chose à travailler tous les jours. Donc je dirais qu'il y a des moments où je m'aime très très fort, où je me prends laisse tomber, et il y a des moments et il y a des moments où c'est tout l'inverse et où je suis cruellement en manque d'amour de moi-même. Et ouais, c'est très, c'est à l'image de ma vie et de ma personnalité. Tout ça, c'est très instable et toujours poussé dans les extrêmes. Donc, j'aimerais bien, en tout cas, avoir pas forcément plus d'amour de moi, mais qu'il soit mieux réparti. Que je sois pas, par exemple, un truc bête. J'ai réussi à faire quelque chose, du coup, je me crois la meilleure du monde et je m'aime à fond parce que j'ai l'impression que je suis valorisée. Et puis, paf, d'un coup, en fait... Finalement, l'amour de moi dépend extrêmement du retour que j'ai et du regard des autres. Et je me sens extrêmement dépendante de ça. Donc, s'il y a quelque chose qui fait un gros flop, je suis nulle, je ne m'aime pas.
D'accord. En fait, toi toute seule, il y a des fois où tu te sens la meilleure du monde. Et au final, derrière, quand tu as le retour, c'est plus compliqué. Le regard des autres, tu dis je me suis sentie bien et c'était cool et je me suis sentie la meilleure du monde. Mais en vrai, derrière, ça a été le retour qui a été plus compliqué.
C'est un équilibre qui est très fragile, vraiment. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est pas plus l'amour de soi, mais plus l'acceptation de soi.
Oui.
Moi, je pense que je ferais ce parallèle-là.
Ouais.
Voilà.
Il y en a qui font le parallèle dans amour de soi, tu peux le faire dans acceptation, estime de soi, confiance en soi. En fait, l'amour de soi, ça, c'est beaucoup de choses. C'est tellement de choses. Enfin, je résume en une question, mais ça peut être tellement de choses. Chacun en fait ce qu'il veut de cette question. Parce que oui, on peut s'aimer. Moi, par exemple, je vais te dire que je m'aime, mais en vrai, j'ai pas vraiment confiance en moi. Et toi, tu vois, c'est plus l'acceptation de toi. C'est vraiment ce que t'en fais de cette question et de ce que. Enfin voilà. Mais merci vraiment, Abigail. Là, c'est un apport tellement fort ce que tu m'as donné aujourd'hui. J'ai adoré. Enfin vraiment, t'as mis des mots sur les mots. Tu l'as dit tout à l'heure et je vous le suis noté. Et c'est magnifique. Donc vraiment merci, merci à toi.
Bah, merci à toi aussi.
Et du coup, je voulais juste te rappeler parce qu'on a parlé beaucoup de suicide, de psychiatre, etc. Je mets toujours en lien quand c'est des épisodes d'amour de soi en dessous, en barre d'infos, tout ce qui est numéro de téléphone, autant pour les ados que pour les parents. Il existe des maisons parentales en France, c'est génial ça. Enfin voilà, il y a plein de solutions en France, on est riche de tout ça. Il y a toujours un moyen. La première chose, c'est d'aller consulter son médecin traitant ou d'en parler à quelqu'un de confiance. On sent quelqu'un qui a une énergie positive, entre guillemets, c'est toujours important et cette personne souvent nous oriente. Et le médecin traitant je trouve, est un bon point de départ parce que pour certains, si on a un bon médecin traitant, il va nous orienter. Donc voilà, en barre d'outils, en barre d'infos, je vais mettre tous ces numéros. Merci Abigail, je te souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Amour, Isa.
Amour. Amour.
Amour.
Amour.
Amour.
Amour.
Amour.